Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Je suis Mélanie Wanga. Ces dernières années, en France, on a assisté à plusieurs polémiques successives autour de cas de blackface. Ce terme est encore méconnu par beaucoup de Français. Il vient des États-Unis et signifie « visage noir ». Le blackface, c'est une pratique qui consiste à se peindre le visage, donc, en marron ou en noir, pour se déguiser en noir, pour jouer à être un noir. Et c'est encore très, très courant.
C'était dimanche soir sur Twitter, Antoine Griezmann mettait le feu aux réseaux sociaux en postant une photo de lui grimé en noir.
Lancer un appel au boycott sous l'intitulé, je cite, « Blackface, propagande coloniale à la Sorbonne ».
Et pourtant, à chaque polémique, on nous ressort l'argument selon lequel le blackface, quand on sait ce que c'est, n'est raciste qu'aux États-Unis. C'est oublier que l'Europe, et la France particulièrement, ont une longue tradition esclavagiste et colonialiste qui ont perpétué des stéréotypes racistes sur les personnes noires. Alors pourquoi pense-t-on que le blackface, dans un cadre festif ou culturel, ne pose pas de problème chez nous, ou alors moins qu'ailleurs, alors que les origines racistes de cette pratique sont pourtant les mêmes qu'aux États-Unis ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Historiquement, le blackface est répertorié dès le XVe siècle. Le journaliste John Strasbourg souligne qu'on en retrouve des traces dès 1441 au Portugal, en Europe donc, où des Africains de l'Ouest étaient exposés à la foule. Le blackface s'inscrit alors dans une entreprise de divertissement des spectateurs blancs. On retrouve aussi le blackface au XVIe siècle dans le théâtre européen, par exemple dans Othello de Shakespeare, où le personnage principal est souvent un homme blanc grimé en noir. Mais le blackface dans sa forme la plus achevée apparaît plus tard, avec les minstrel shows américains. C'est un genre qui a été tellement illustré, photographié et raconté qu'on a presque l'impression que ce sont les États-Unis qui ont inventé le blackface. Le minstrel show, c'est une forme de spectacle avec des danses et des chansons où des blancs maquillés jouent les noirs joyeux et stupides.
That'd be a lesson to you.
What's the matter with you boys shooting up that man's hen house?
I'll shoot any chicken trying to follow me home.
Le premier minstrel show a lieu en 1769 dans une pièce anglaise qui s'appelle The Padlock. C'est quand elle est jouée à New York qu'elle importe le blackface outre-Atlantique. Le personnage mis en scène, c'est le noir Mungo, le premier d'une très très longue série de représentations racistes. Il codifie la pratique du blackface. Alors comme toutes les représentations racistes des noirs, Mungo, il est caricatural. Les minstrel shows montrent des noirs fainéants, idiots, pas éduqués, alcooliques, voleurs, superstitieux et menteurs. Et les femmes noires, elles aussi, elles sont stéréotypées. Généralement, en étant outrageusement sexualisées ou cantonnées au rôle de la mama servante. Alors moi, j'ai grandi dans les années 80 et 90 et je me rappelle encore que dans les carnavals, les petites filles blondes déguisées en femmes noires portaient le boubou. Et elles avaient aussi le visage peint en marron avec les lèvres rouges. Encore aujourd'hui, les costumes d'Africains font toujours recette, notamment sur les boutiques en ligne de déguisement. Le carnaval de Dunkerque et la fameuse nuit des Noirs, durant lesquelles certains participants se déguisent en Zoulou, avec soupule noire et visage peint, met un point d'honneur à rappeler chaque année qu'il s'agit d'une tradition joyeuse et bonne enfant, pas du tout raciste. Aux Pays-Bas, le père fouettard s'appelle Zwarte Piet. Il est méchant et il a le visage peint en noir, avec des grosses lèvres rouges et un afro. Il existe sous cette forme depuis 1850 pour accompagner Saint-Nicolas. Mais attention, Zwarte Piet, c'est pas un compagnon, c'est un servant. Et ici encore, c'est la tradition. On est tenté de dire que si aujourd'hui il y a controverse autour du blackface, c'était pas vraiment le cas il y a 30 ou 40 ans. En France, comme aux États-Unis, de nombreux humoristes ont fait usage du blackface et ont été récompensés par des carrières florissantes. On a quelques exemples d'humoristes bien de chez nous. Les Inconnus, avec le sketch Marie-Thérèse qui parodie les infirmières antillaises.
Marie-Thérèse ! Marie-Thérèse !
Oui !
Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi.
Qu'est-ce que tu me racontes encore?
Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi.
Mais qu'est-ce que tu me racontes, la chambre 106, c'est pas mon secteur.
Mais c'est qui alors?
Mais c'est le secteur de Marie-Denise.
M'appelle
Marie-Denise. Marie-Denise.
Les nuls, avec la séquence Deux flics à Miami, où Alain Chabat apparaît en blackface.
Hey les mecs, calme. Je suis un mec à la cool, moi. Hey, je suis pas un enculeur de maman.
Et bien sûr, Michel Leeb et son fameux sketch, L'Africain, dans lequel il parodie un accent africain, de quel pays on saura jamais, et apparaît en blackface sur les affiches promo.
Je suis le fils de Bokassa présentement, là. Et tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père, là.
J'ai donc demandé à l'universitaire Mamfa Tounyang, enseignante-chercheur à l'université de Pittsburgh et réalisatrice, pourquoi en France on a du mal à accepter la portée raciste du blackface? Pourquoi à chaque scandale, que ce soit l'affaire Griezmann ou celle autour de la pièce Les Suppliantes, on a l'impression que l'opinion française redécouvre le blackface? Est-ce qu'il y a une différence de perception de cette pratique raciste entre la France et les États-Unis? Et si oui, pourquoi?
Alors, c'est une excellente remarque que vous faites. Donc, à chaque scandale ou affaire, donc moi, je pense par exemple à l'affaire Griezmann, au bal de Dunkerque, et puis plus récemment, les Suppléantes, on a l'impression que le pays redécouvre l'histoire du blackface. Et je trouve que c'est quelque chose qui dit beaucoup de l'approche française et sur la problématique raciale et sur cette problématique du blackface. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse déjà, c'est de ne plus utiliser le mot blackface, mais de dire barbouillage.
Barbouillage.
Parce que je trouve que c'est très important. Barbouillage. Il y a un mot, donc cette expression existe dans la langue française, et c'est un mot qui est tiré d'une lettre envoyée en 1560 par Michel de l'Hôpital au cardinal Dubelet, où il faisait donc référence à l'utilisation de barbouillage, donc par des petites pages qui devaient jouer le rôle de noir, qui devaient jouer le rôle de Lucifer. Et je trouve que c'est extrêmement important d'ancrer ce mot, cette pratique dans l'histoire artistique, dans l'histoire littéraire, dans l'histoire culturelle et dans la vie de la France, parce que tant qu'on dit blackface, on est rapporté comme ça par le mot à une réalité qui est étrangère. Et pas vrai, le blackface, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles en France, donc il faut le franciser. Et ça nous rapporte à cette idée de découvrir une réalité qui serait étrangère et qui serait forcée au bon français par des groupes militants qui ont été biberonnés à la sauce militante américaine. Donc, ça dit beaucoup de cette approche française qui tend à mettre à distance, à extérioriser des problématiques raciales qui sont les nôtres.
Ben oui, parce qu'en fait, certains disent que le blackface, enfin le barbouillage du coup, n'est raciste qu'aux États-Unis et pas en France à cause de l'intention qu'on y met derrière. Donc aux États-Unis, ce serait forcément quelque chose de dégradant, de raciste. Mais en France, on fait ça pour s'amuser, c'est un peu bon enfant. Moi, c'est une dichotomie qui m'interroge et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Par exemple, c'était l'année dernière, pendant le 50e anniversaire du Festival de Dunkerque, j'avais été très interrogée, assez surprise par les sorties du maire de Dunkerque, qui est un maire de gauche, Patrice Lacuite, qui disait que pour lui, cette manifestation, donc on a entre 7000 et 10000 personnes qui se déguisent en noir, avec des grosses laves rouges, des coiffures en peau, des plumes, etc. Et il disait que ce n'était absolument pas un cas de barbouillage, qu'on était dans quelque chose qui était la quintessence même de la République, des valeurs de la République, donc l'égalité parce que riches et pauvres se retrouvent dans la rue, la fraternité, parce qu'on est dans une espèce comme ça, de moments de mélange joyeux dans les rues, et la liberté parce que le déguisement permet une libération. Derrière le déguisement, on ne sait plus qui est professeur, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir ce retournement, parce que tout le monde sait, lorsqu'on parle du blackface, donc on a ces figures américaines de Jim Crow, etc., qui en France, parce qu'on a étudié les problématiques raciales aux États-Unis, on sait la charge que ce déguisement peut avoir. Et c'est extrêmement intéressant de voir que du moment que ces pratiques qui sont ancrées dans le même terreau de représentation et de symbolique, de symboliser quelque chose dans l'autre, ce n'est absolument pas, il n'y a pas de différence entre pourquoi on utilise ces pratiques. Et c'est extrêmement intéressant de voir pourquoi dans le psyché français, fois pour des spécialistes aussi bien que pour le grand public. On sait ce que le blackface veut dire aux États-Unis, mais que dès lors qu'il traverse l'Atlantique, il est absolument sanitisé, nettoyé, et même, on le voit avec ce que Patrice Vergriet dit, il devient une représentation des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est extrêmement intéressant, voilà, cette volonté, même pas une volonté, mais l'action qu'on peut avoir et cette volonté d'enlever le sens que cette pratique peut avoir, alors que voilà, son sens est un sens historique. Le blackface a été utilisé parce qu'il avait un message, il disait quelque chose sur l'autre, il disait quelque chose sur la place qu'on accordait à l'autre dans la société, et cette pratique ne doit pas être déhistorisée, elle doit être remise dans son contexte. Voilà, ça veut toujours dire la même chose, et ce n'est pas parce qu'on change le mot ou qu'on dit blackface que voilà, il est mauvais aux États-Unis, il est offensif en France, ce n'est pas vrai.
Ouais, et puis justement, c'est intéressant de voir que historiquement, on le sait, c'est une pratique qui est née en Europe, qui a traversé l'Atlantique, qui a prospéré aux États-Unis. Mais pourquoi on a oublié en fait que ça trouve ses origines en Europe, le blackface, et qu'il y a toute une culture autour de ça. Pourquoi, quand on évoque ce sujet-là, vous l'avez dit, on accuse souvent les personnes militantes antiracistes d'importer un débat qui n'a pas lieu d'être, alors que c'est né quand même chez nous. D'où vient en fait cet oubli c'est un peu un effacement historique quand même.
Cet oubli vient de... Voilà, pourquoi aujourd'hui on a de nombreux apartheid aux États-Unis, mais on ne connaît pas Suzanne Césaire. Pourquoi tout le monde, on peut vous citer au moins le nom de deux victimes de violences policières aux États-Unis, mais qui connaît aujourd'hui Adama Traoré, qui connaît... Donc il y a, je trouve que c'est quelque chose qui a trait à deux choses qui sont... le refus de la France de se confronter à son passé esclavagiste, à son passé colonial, et toutes les choses qui ont pu naître de ces deux moments qui ont fondé absolument la modernité européenne, qui ont fondé la société capitaliste européenne, la société capitaliste française, et qu'on refuse de voir, qui ont été des moments fondateurs, et qu'on refuse de voir comme des moments fondateurs, et on refuse, et à ce titre, parce qu'on refuse d'accepter ce passé, on ne peut pas accepter les fruits de ce passé, donc les procédés, les manifestations, les systèmes et les personnes qui sont nées de ce passé, qui sont pas seulement nées les racisés, mais aussi les personnes franco-françaises, dont c'est l'histoire, parce qu'on a tendance à penser au barbouillage, à toutes ces polémiques je déteste le mot polémique, parce que tous ces événements auxquels on assiste de plus en plus comme des événements créés par des militants qui seraient anti-français, alors que c'est une histoire de France. Et donc voilà, je pense que ça a trait à ça, au refus de la France de se confronter à cette histoire, et aussi au fait de vouloir mettre les choses à distance en se disant ce sont des phénomènes étrangers, alors que non, il y a une circulation atlantique, il y a une circulation dans le monde occidental qui ont fait que ces procédés ne se sont pas... C'est comme on dit, le nuage de Tchernobyl a été toxique jusqu'à son arrivée à Strasbourg, et qu'une fois arrivé à la frontière française,
il s'est dissous.
Absolument, voilà. Donc ce n'est absolument pas vrai. Et donc, comme on ne prend pas en compte ces problèmes, on ne prend pas en compte leur héritage, donc on évolue comme ça dans une situation diffuse où on ne veut pas discuter des problèmes, parce que comme je le disais, on n'a même pas de mots pour parler de problème. Pourquoi parler de blackface alors que ce mot peut être ancré dans la langue, et on connaît l'importance du français, l'importance de la langue dans le psyché et dans l'acceptation d'un phénomène comme étant français. La langue est absolument un des ciments, un des moteurs de notre identité française. Donc un mot qui n'existe pas en français, il n'est pas une réalité française. Donc c'est pour ça que moi j'insiste pour la francisation du mot. C'est une réalité qu'on peut ancrer dans notre histoire, et voilà.
En France, notamment dans la culture, le blackface est encore régulièrement pratiqué. En 2008, le film Agathe Cléry d'Étienne Chatillez met en scène Valérie Lemercier dans le rôle d'une femme blanche raciste qui se réveille un jour noire et passe une grande partie du film en blackface.
Elle est raciste, elle va devenir noire.
Si le dispositif du blackface est ici utilisé pour dénoncer le racisme, il est toujours problématique en fait. Qu'on se déguise en noir sans intention raciste ou pour parler de racisme, on perpétue une pratique qui l'est, elle, raciste. En 2015, une controverse se forme autour de l'acteur Philippe Torreton, qui joue le rôle d'Othello dans une pièce mise en scène par Luc Bondy. Othello est décrit comme un mort noir, et pourtant, les acteurs en blackface se succèdent dans le rôle. En 2017, le footballeur Antoine Griezmann se couvre de la tête aux pieds de peinture marron pour se déguiser en Harlem Globetrotter, avec une afro à l'appui, et poste la photo sur les réseaux sociaux. Donc ça fait beaucoup d'exemples. Depuis les années 2010 et l'avènement des réseaux sociaux, les militants antiracismes sont beaucoup plus entendus dans leur dénonciation du blackface, notamment. Mais il y a un nouveau débat qui s'élève. Si on remet en cause des traditions culturelles séculaires qui font usage du blackface, est-ce qu'on ne devient pas des censeurs de l'art, un domaine qui devrait pourtant échapper à toute restriction ? C'est ainsi que des tribunes médiatiques et des éditorialistes se sont élevés contre la dénonciation de certaines pratiques racistes dans les œuvres culturelles actuelles. Dans le journal Libération, l'Observatoire de la liberté de création a publié une tribune intitulée « Liberté de création, ne nous trompons pas de combat ». Et dans ce texte, l'entité présente sa mission.
Née il y a 15 ans pour répondre aux attaques lancées contre des œuvres d'art par des associations souvent réactionnaires, l'Observatoire de la liberté de création s'alarme d'une nouvelle forme de censure venue d'associations antiracistes ou féministes. Si la critique est nécessaire, vouloir interdire des livres ou des films signe l'échec du débat démocratique.
Plus loin,
si l'artiste n'est pas au-dessus des lois, car il est un citoyen comme tout un chacun et qu'il est comptable de ses actes quand il s'exprime dans une œuvre, il doit pouvoir représenter le racisme, le machisme, la domination masculine ou la colonisation sans qu'on le lui reproche. C'est seulement dans le cas où, sortant de la fiction, il utilise un dispositif artistique pour diffuser un message raciste, sexiste ou, de façon générale, un message interdit par la loi, qu'il est passible des tribunaux. Là encore, l'œuvre est libre de montrer la boue du ruisseau.
L'affaire de la pièce des suppliantes, où des étudiants se sont plaints de représentations racistes via l'usage du blackface, et où des militants ont manifesté devant la tenue d'une représentation, a fait grand bruit il y a quelques mois. La pièce classique d'Eschyle, mise en scène par Philippe Brunet, montre un affrontement entre les Grecs et les Danaïdes du Nil. Le blackface est utilisé pour représenter ces derniers. Caster des personnes noires n'a visiblement pas été envisagé. Et sous la pression, le procédé a été remplacé par des masques. J'ai contacté Ghislain Védeux, président du conseil représentatif des associations noires de France, pour comprendre les enjeux du blackface dans le milieu artistique de nos jours et ce que ces militants demandent.
Alors, je crois que la première chose à rappeler, c'est qu'il est important de partir du point de vue des concernés. C'est-à-dire qu'effectivement, qui est-ce qui parle ? Donc, quand on parle du blackface, initialement, effectivement, c'est une pratique qui est née en Europe, qui a été exporté vers les Amériques, puisque ce sont les Européens qui ont envahi, on va dire comme ça, par la colonisation, cette partie du monde. Et donc, quand on parle du blackface, dans un premier temps, on parle d'un point de vue. Effectivement, les Européens et les Américains vous diront que c'est une tradition. Eh bien, nous, les concernés, aujourd'hui, nous avons pris la parole, c'est toute la différence. Et donc, nous n'acceptons pas que cette façon de légitimer le racisme se perpétue. Parce que, simplement, il faut le rappeler, le blackface est né au XVIIe siècle. Il est né au XVIIe siècle, et y compris en Europe, y compris en France, on a malheureusement eu l'année dernière, on s'en rappelle, les 50 ans de la Nuit des Noirs, c'était à Dunkerque, mais cela se passait aussi sur d'autres ports négriers, que ce soit à Nantes, ou aussi à Brest. Il y a un auteur que peu de gens connaissent, qui s'appelle Édouard Corbière, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le négrier ». Et dans ce livre, qui est malheureusement nommé comme cela, eh bien, de quoi parle-t-il ? Eh bien, il parle des corsaires. En aucun moment, il ne parle des personnes noires qui étaient maltraitées, car déportées dans les Amériques. Donc, c'est important de faire la différence et de comprendre aujourd'hui que s'il y a ce débat, c'est parce que les concernés ont pris la parole pour dire que cette façon de légitimer le racisme, l'afrophobie, le racisme anti-noir, est révolue.
C'est vrai que dans l'affaire de la pièce des suppliantes, où le metteur en scène faisait usage du blackface, on a opposé en fait la tradition en disant oui, mais les metteurs en scène de théâtre à l'époque de l'Antiquité grecque utilisait aussi des masques, enfin voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut remettre en cause c'est parfois des traditions qui sont racistes, on se heurte à cette question-là. Donc, à votre avis, comment on peut faire pour remettre justement en cause ces traditions? Est-ce que c'est par l'éducation? Est-ce que c'est par un débat? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Pour revenir sur le contexte de ce qui s'est passé à la Sorbonne avec les suppliantes, il faut rappeler le contexte. Dans un premier temps, puisque là, on nous parle des masques, les masques n'étaient pas prévus. Cette pièce a déjà été jouée l'année dernière. Il y avait eu un fort malaise parce que les étudiants de la Sorbonne qui nous ont contactés n'acceptaient pas cela, une grande majorité. Donc, ils ne voulaient plus que soit joué le blackface parce qu'on a beau nous parler de l'Antiquité, et bien dans l'Antiquité, cette pièce n'était pas jouée avec des blackface. Dans un second temps, quand il y a eu un mécontentement des étudiants et puis de toute la mobilisation, donc le metteur en scène a proposé dans un second temps des masques. Et quand il a proposé des masques, les étudiants et les personnes ont dit « bon, pourquoi pas, pouvons-nous voir les masques ?» Eh bien, les masques étaient hideux, c'était des masques dévalorisants, déshumanisants. Et donc, ça a été, il y a eu un point de vue qui a été donné de la part des concernés qui ont dit « nous ne souhaitons pas être représentés comme ça ». Donc, de quoi parle-t-on ici ? On parle ici de la production et de la d'une façon de perpétuer des stéréotypes. Donc, des stéréotypes parce que, où qu'on soit dans le monde, les Noirs sont différents. Il y a des Noirs sur tous les continents, que ce soit dans les Amériques, en Inde, en Afrique et en Europe, partout. Les Noirs sont différents. Donc, on ne peut pas représenter les Noirs d'une seule façon. Ce n'est pas possible. Et donc, cette façon de caricaturer les Noirs, de les montrer d'une certaine façon, parce que c'est toujours la même. Là, on parle de ce qui s'est passé à la Sorbonne, mais on peut aussi parler de la toile qu'on a vue à l'Assemblée nationale, parce qu'on est dans la caricature, globalement. Et dans ces caricatures-là, on est dans le fait de perpétuer une tradition raciste, donc qui visait à déshumaniser les Noirs, à les inférioriser, pour normaliser et banaliser cela. Donc, comment fait-on aujourd'hui pour lutter contre cela ? Donc, dans un premier temps, il faut partir du point de vue des concernés. Bien sûr qu'il faut de l'éducation, parce que pour revenir à la Sorbonne, ces personnes, malgré toutes leurs qualifications, ne connaissaient pas cette histoire. Et donc, plutôt que de prendre acte qu'ils ne connaissaient pas cette histoire, puisque dans un premier temps, ce que nous avons proposé, c'était un débat, eh bien, ils nous ont opposé un argument d'autorité. C'est-à-dire que, globalement, ils nous traitaient d'ignorants, alors qu'eux-mêmes ne connaissaient pas cette histoire et ne pouvaient pas en parler. Donc, il faut accepter le point de vue des concernés. Et d'ailleurs, nous avons pris la parole, nous avons écrit plusieurs articles là-dessus. Et ensuite, il faut casser tous ces stéréotypes parce qu'on ne le dira jamais assez. Donc, une fois qu'il y a stéréotypes, il y a préjugés. Et une fois qu'il y a préjugés, il y a discrimination et racisme. Donc, il faut casser les préjugés aussi. Donc, c'est très important. Et donc, écouter les concernés. Aujourd'hui, nous avons au cran construit un site internet qui s'appelle stopblackface.fr. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut se saisir de tous les constructions pédagogiques. Il faut aussi écouter, comment dirais-je, les personnes qui travaillent aussi dessus, comme les associations, comme des chercheurs noirs aussi. C'est très important, en fait. Pour nous, la clé, c'est de partir du point de vue des concernés.
D'accord. Alors, le blackface n'est pas puni par la loi, mais il a été condamné plusieurs fois par plusieurs instances internationales. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on est face à un problème moral ou est-ce qu'on est face à un problème systémique ?
Dans un premier temps, il faut rappeler ce qui s'est passé au niveau de la loi. Donc, le défenseur des droits en France a fortement condamné cela et a dit très explicitement que le blackface est une pratique raciste. Donc, il a donné des recommandations afin que cela soit sanctionné, afin que le ministre de l'Intérieur, c'était en 2017, de l'époque, prenne des dispositions. Parce que si vous vous rappelez, pour la petite histoire, en 2014, des policiers au Kremlin-Bicêtre avaient fait un blackface. Et donc, tout à fait inacceptable, qui avait été rendu public sur les réseaux sociaux. Nous avions saisi le défenseur des droits qui a rendu un jugement, on peut dire ça, des recommandations, et qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas appliquées. Et vous avez certainement suivi la semaine dernière, malheureusement, il y a un policier qui a, un commissaire, pardon, du côté de Nantes, policier-commissaire, qui a encore fait un blackface.
Oui.
Parce que, justement, ce n'est pas sanctionné. Aujourd'hui, on a une instance en France, comme le défenseur des droits, qui rend des recommandations, et le ministère ne l'applique pas. Donc là, il y a un problème systémique, comme on le dit. Ensuite, il y a l'ONU qui a pris position très clairement aussi contre le blackface en disant que c'était raciste. Il y a le Parlement européen aussi, dans ses recommandations, qui a aussi condamné très fortement le blackface. Donc vous voyez aujourd'hui, vous avez des associations comme le CRAN, comme la nôtre, qui avons de notre côté le Défenseur des droits, l'ONU, le Parlement européen. Et en face, vous avez des institutions qui refusent ces réalités-là, qui refusent de sanctionner. Et donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons parlé du côté moral. C'est un problème, puisqu'il y a derrière, il y a une idéologie raciste, il y a une philosophie raciste que nous sommes en train de déconstruire. Donc, oui, il y a un problème moral. Mais il n'y a pas qu'un problème moral, parce que si on veut que ce type d'action cesse, il faut aussi des sanctions. Et quand des autorités, comme je viens de citer, telles que le Défenseur des droits, l'ONU et le Parlement européen, prennent position très fortement et que nos institutions ici, en France, comme le ministère de l'Intérieur, refusent de les appliquer, là, on voit qu'il y a un problème systémique, comme on le dit. Puisque ces personnes se sentent complètement impunies, c'est malheureusement ce qui a permis qu'un commissaire puisse perpétuer encore cela, comme on a vu la semaine dernière. Donc, il faut des sanctions fermes et il faut que nous continuions à travailler dans ce sens.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la liberté d'expression et surtout la liberté de créer sont entravées par la lutte antiraciste? Je pense surtout au cinéma ou aux manifestations culturelles. Vous avez parlé des carnavals, parce que c'est un débat qui a fait l'objet même de plusieurs émissions ces derniers temps où on dit « mais on va plus pouvoir créer comme on veut à cause des antiracistes ». Qu'est-ce qu'on fait de cette question-là et qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, là, très clairement, je fais référence à ce qui s'est passé à la Sorbonne, où on nous a accusés de censure. Nous n'avons jamais appelé à la censure, et ça répond un peu à votre question. Non, nous n'appelons pas à la censure. Par contre, nous avons le droit d'appeler au boycott. Et c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de créer ce qu'ils veulent, mais nous aussi, nous avons la liberté de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et c'est ce que nous faisons. Parce que ce que l'on constate dans ce genre d'échange, c'est que d'un côté, ce sont des injonctions. On nous dit, bien oui, on ne peut plus créer, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. En gros, ces personnes nous demandent de nous taire, en fait. C'est-à-dire que sous prétexte qu'elles ont la liberté de s'exprimer, nous devrions nous taire. Nous nous disons non, c'est votre liberté, certes, il y a un problème moral, il y a des questions de droit qui se posent, et nous avons aussi la liberté de nous exprimer et de dire que c'est inacceptable. Et donc, il y a une tension qui se joue, bien effectivement, entre la parole des concernés et la parole de ceux qui ne veulent pas entendre les concernés.
Il s'agit donc d'écouter la parole des concernés plutôt que de se réfugier dans les certitudes de nos traditions et de nos cultures. De penser l'impensé du blackface, made in France, en se rappelant ses origines. Et de comprendre également que les personnes noires n'avaient pas la même prise de parole médiatique pour faire entendre leur désaccord ou leur douleur face à cette pratique raciste, historique, toujours présente dans notre culture, nos films, nos théâtres et nos spectacles. Merci à Mam Fatou Niang et Ghislain V2 pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.